cette discussion ce soir. Moi, je pensais réunir ces trois personnes pour faire un peu le point sur la situation d'aujourd'hui, mais dans une perspective de longue durée. Alors, je voulais vous inviter tous les trois à vous projeter dans le futur pour nous expliquer un peu ce qui nous attend. Et je voulais commencer avec Jean Lamèche et lui demander, avec tout ce qu'on peut dire raisonnablement sur le futur. Je sais que vous n'aimez pas parler du futur, mais comment sera le monde en 2050 si on regarde les ressources d'un côté, mais aussi qu'est-ce qu'on peut dire sur le changement climatique raisonnablement aujourd'hui à la perspective 2050. Peut-être ça comme introduction. Après, Claude va nous raconter un peu sa vision de la société, mais aussi de l'économie et des technologies à l'horizon 2050. Et puis, Samy, toi, tu vas nous dessiner un cadre politique pour cela. Et puis après, on va revenir sur la situation aujourd'hui et on va discuter un peu comment est-ce que on arrivera là. Bon, on arrivera de toute manière, mais dans quelles conditions? Jean, c'est à toi.
Oui, pardon. Oui, effectivement, je n'aime pas trop parler de l'avenir parce que la race des prophètes est morte il y a 2500 ans. Et depuis, on n'en a plus. Alors, d'un autre côté, si je me remets un siècle en arrière, je me mets en 1911, et si on m'avait demandé ce qui se passerait en 1951, je fais allusion à la CK, en 1911, je n'aurais pas voir venir la Première Guerre mondiale, parce que 1911 était une année très, très positive. Par exemple, en 1911, Ford avait commencé à sortir les premières voitures à bas prix avec la première chaîne de montage. Donc, on était très optimiste sur l'avenir et on était cruellement démenti par les faits. Il y avait la Première Guerre mondiale, il y avait la crise de 29, ensuite il y a la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le moment de l'Holocauste où l'humanité a atteint son point le plus noir, à mon avis. Et en 1951, le monde était tout à fait de nouveau différent. On était au début de la guerre froide. Donc tout ça, personne n'aurait pu l'anticiper en 1911. Donc demander ce qui sera en 2050 sera très 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 difficile. Bien sûr, il y a des pistes. Si je suis explorateur et que je vais dans la forêt vierge, je sais qu'il y aura des dangers, qu'il y aura des morsures de serpents, etc. Donc je peux me prémunir contre des dangers connus. Mais il n'y a pas que les dangers connus, il y a aussi les dangers inconnus. Il y a une phrase célèbre de Dick Cheney qui a dit que nous sommes exposés aux known unknowns et aux unknown unknowns, n'est-ce pas? Ça, c'est le problème. Les known unknowns, ça, c'est ce que je vais bientôt évoquer dans quelques secondes. Ce sont les dangers que nous connaissons, les défis que nous connaissons, mais dont nous ne mesurons pas encore l'importance. Les unknown unknowns, c'est ce qui va nous tomber sur la tête, pour lequel nous n'avons même pas de nom, donc nous ne pouvons pas nous prémunir contre cela. Donc parmi les known unknowns, il y a alors par exemple le problème des ressources, qui va se poser de façon accrue d'ici 2050. Il y a les ressources dont minérales, dont le pétrole et le gaz, mais il y a aussi les autres challenges. Il y a qui dit énergie, dit accès ou non-accès d'un milliard d'hommes à l'électricité. Il y a le problème de l'agriculture qui dépend étroitement du pétrole, malheureusement. La révolution verte était plutôt une révolution brune pour le pétrole. Donc il y aura un problème. De toute façon, en 2050, nous serons plus nombreux de 3 milliards, d'après les chiffres de l'ONU. 3 milliards, c'est un chiffre très abstrait jusqu'au moment où on pense que c'est encore deux Chines qui vont s'ajouter, ou deux équivalents plutôt de Chine qui vont s'ajouter. Et comme nous avons déjà beaucoup à faire avec une Chine, si nous imaginons qu'il y en aura encore deux qui s'ajouteront, nous aurons quelques problèmes à prévoir. Le monde, la population mondiale s'accroît de 1,2% par an, ce qui est moins qu'il y a 30 ans où on était encore à 2%, mais les 1,3% expliquent qu'il y aura justement les 3 milliards de plus. 1,3% de plus veut dire que, par exemple, on n'y pense jamais, qu'il faut 20 à 30 millions de logements nouveaux par an, sans compter ceux qui seront détruits par les ouragans, etc. Rien que là, avec quoi construiront-on 20 à 30 millions d'habitations? Oui, avec du béton, renforcé, avec des ronds à béton. Donc je suis là très pratique, parce qu'on ne va pas tout faire avec du bois. On ne pourra pas construire 30 millions de logements avec du bois seul. Un autre problème est évidemment l'éducation, l'accès aux soins. Ce sont tous des sujets qu'on ne peut pas traiter ce soir. Donc je reviens à l'énergie et en particulier au pétrole. Le pétrole, pour le moment, les achats de pétrole dans les nations industrialisées concernent à peu près 5% du PIB, grosso modo. Au Luxembourg, c'est différent. Nous sommes dans un cas spécial. Et je parle de pays comme l'Allemagne, la France ou l'Angleterre. Alors, mais le problème, c'est que les 5% de pétrole, ils influent directement sur 50% du PIB. Ce sont les travaux de Hearst, de l'école de Fontainebleau, qui font ce rapport entre 5% d'achat direct et 50% d'influence. Si je dis 50% du PIB, ça veut dire que les prix du pétrole se répercutent dans les transports, évidemment directement, puis dans la construction de voitures, dans l'agriculture, toujours, dans l'acheminement d'eau, etc., etc., dans la fabrication de médicaments. Et la liste est presque infinie. Donc, si les 5% maintenant augmentent à 10% du PIB par la raréfaction progressive du pétrole, on peut estimer que parmi les 50% du PIB des marchandises et des biens et services que j'ai évoqués, tous vont s'en ressentir et on se propulsera vers un renchérissement général de la vie. Ça, c'est un premier problème. L'autre problème du pétrole, c'est que pour la première fois dans son histoire, l'Agence internationale de l'énergie, dans son rapport de novembre dernier, évoque le terme de pic pétrolier. C'est un concept qui a déjà un certain âge, mais que les politiciens n'ont jamais voulu prendre en compte. Maintenant, il figure. Maintenant, il est bien sûr un peu mitigé dans le rapport. On parle plutôt d'un pic qui soit dû à des effets économiques. Je n'en disconviens pas, mais il ne faut pas oublier, même aux économistes les plus puristes, qu'un trou vide est un trou vide. Je parle d'un gisement de pétrole. Et tous les meilleurs mécanismes du marché ne remplissent pas un trou qui est vide. Donc il y a un impératif géologique qu'il faut prendre en compte dans les économies nationales. Ensuite, ben je vais faire un peu plus bref, il y a au moins trois gros problèmes qui sont liés au pétrole dont on ne discute jamais assez. Le premier est ce qu'on appelle le modèle du export land model. Si je prends le cas de l'Indonésie, qui était un membre de l'OPEC, qui est passé par son pic pétrolier, qui continue à produire du pétrole, qui lui donne des richesses intérieures, qui augmente son PIB, qui augmente sa consommation interne de pétrole et qui laisse de moins en moins de tonnage pour l'exportation. Donc un pays comme l'Indonésie sort maintenant de l'OPEC, il continue à produire beaucoup de pétrole, mais il n'en exporte plus. Donc ça c'est le problème. Il y a une très grande différence entre les gisements encore existants, dont on parle beaucoup, et des tonnages encore libres pour l'exportation pour les pays industrialisés de l'Ouest qui n'ont pas de pétrole propre. Ça, c'est un premier gros problème. Un deuxième gros problème dont on ne parle pas assez, c'est qu'une tonne de pétrole n'est pas une tonne de pétrole. La qualité du pétrole diminue. Donc, par exemple, si je prends les sables schisteux ou bitumineux de l'Athabasca au Canada, il me faut de plus en plus d'énergie pour sortir cette énergie. Pour prendre un exemple quantitatif, si je prends le meilleur pétrole du monde, qui est celui de l'Arabie Saoudite ou du Texas, avec l'effort énergétique d'un baril, je peux mettre sur le marché 100 barils, sans problème. Si je prends maintenant, au contraire, le sable du Canada, si je prends l'effort d'un baril équivalent à l'énergie, je ne peux plus que mettre 5 barils sur le marché parce que le reste se perd en friction, en émissions de CO2, etc. Et si je prends le pire, c'est l'agrofuel, là je suis content que si je fais mes cultures agrofuel, avec l'effort d'un baril, j'en sors à peu près 1,2 baril. Donc le rapport entre l'effort, et ça c'est ce qu'on appelle le energy return of energy invested. Et ça c'est un gros problème dont il faut tenir compte. Donc si quelqu'un nous dit, mais il y a encore 1000 milliards de barils répertoriés, il faut toujours dire, mais lesquels? Est-ce que ce sont de quelle qualité? Ça c'est un autre gros problème. Donc, on voit qu'il y a encore un certain nombre d'autres problèmes dans le pétrole qui sont en général occultés. Et je suis content que cette fois-ci, que l'Agence internationale de l'énergie ait mis pour une première fois le doigt sur ce terme fatidique de pic pétrolier, parce que depuis les 30 ans que cette agence existe, elle a tout simplement trop vu la vie en rose. Et c'est l'Agence internationale de l'énergie qui conseille les 26 gouvernements de l'OECD. Ce n'est pas une petite affaire. Il ne faut pas éconduire les gouvernements. D'un autre côté, depuis que le dernier rapport est sorti, je n'ai pas entendu un gouvernement communiquer sur ce fait, ce qui n'est pas une bonne chose. Maintenant, je pourrais encore continuer sur le problème du gaz. Il y a des problèmes similaires, mais il y a aussi de fortes dissimilarités parce que le gaz est un produit local. Le gaz, sauf le LNG, n'est pas un produit aussi international que le pétrole, donc il a ses contraintes propres. Ce qui est irritant dans le dernier rapport de l'Agence internationale d'énergie, c'est que pour l'année 2035, elle affiche une grande plage de pétrole disponible qu'elle appelle tout simplement « champ encore à trouver ». Ça, j'aime bien. Je suis millionnaire, sauf que les millions restent encore à trouver pour moi. N'est-ce pas? Donc, je peux émettre des papiers bancaires sur les millions encore à trouver. Et une banque peut les titriser, comme ça s'est vu dans le passé, et peut faire des certificats là-dessus. N'est-ce pas? Et le tout repose sur du vent. Donc ça, c'est un peu une critique que j'adresse à Tanaka, le chef de l'Agence internationale. Maintenant, j'ai fait un peu le tour de ces énergies fossiles. On pourrait encore continuer sur le charbon. Mais OK. Donc, le pendant, la médaille a un revers et un verso et un recto. Donc, le pétrole est de l'un côté et l'un des côtés, le changement climatique, qui est largement dû à la combustion des énergies fossiles, plus naturellement la déforestation, etc. etc., est donc dû à notre façon de brûler le pétrole. Juste pour vous dire une notion, depuis que le rapport Brundtland est sorti, nous avons brûlé un tiers du pétrole connu. Le rapport Brundtland nous a mis l'attention sur la sustainability, or c'est le contraire qui s'est produit. Nous avons brûlé encore plus de pétrole qu'auparavant, pour ainsi dire, en 87. Donc ce n'est pas si longtemps. Donc entre 87 et maintenant, on a brûlé un tiers des réserves existantes. Alors, le changement climatique est libellé en degrés. Donc, plus le CO2 s'élève, plus la température va changer. Le CO2, naturellement, n'est pas le seul facteur. Il y a, dans le rapport IPCC, à peu près 10 facteurs, dont 7 qui provoquent un réchauffement et à peu près 3 qui provoquent un refroidissement. Par exemple, une éruption volcanique ou une pollution industrielle, c'est très drôle, mais une pollution industrielle freine le changement climatique parce que les petites particules qui sont émises sont autant de petits parasols contre le rayonnement solaire. Ce n'est pas un argument en faveur de la pollution, évidemment, mais c'est un fait. Donc, les aérosols refroidissent. Il n'empêche, donc, cet facteur provoque un réchauffement. Et alors, suivant différents scénarios de l'IPCC, il doit y avoir une cinquantaine de scénarios, on marche vers un réchauffement qui est entre 2 et 6 degrés. Alors, ce sont bien sûr des degrés qu'il faut bien comprendre. Je dis toujours, comme comparaison, la dernière époque glaciaire, donc qui remonte à 18 000 ans, à cette époque, le monde était de 5 degrés plus froid. Donc 5 degrés globaux suffisent à nous mettre dans une époque glaciaire où le Luxembourg était une toundra peu amène. Ça, c'est les degrés. Donc, si on va dans l'autre sens, par exemple, si on ajoutait 5 degrés, le climat serait aussi différent dans la direction du chaud qu'il l'était dans la direction du froid avec moins 5 degrés. Donc, un degré est quelque chose d'énorme. Ce n'est pas le degré de 2, 3, 5, 10 degrés qui nous différencie entre une température d'une chambre ou d'une salle où nous sommes et le dehors. Là aussi, il y a 20 degrés peut-être de différence. On ne parle pas de ces degrés-là, mais on parle des degrés globaux, c'est-à-dire la moyenne actuelle de la Terre. Et cette moyenne, doit être constante. Ce n'est que lors des bouleversements climatiques qu'elle a pu se refroidir de 5 degrés pour passer alors dans une glaciation. Et si alors, je me répète là, mais c'est important, et si on ajoute 5 degrés, on serait dans une situation de chaleur torride. Donc, il fallait faire quelque part un frein, établir une barrière plutôt politique, et c'est les Européens qui l'ont fait, et ça c'est les fameux plus 2 degrés. On voit bien que ce serait, si les Américains l'avaient fait, ils l'auraient fait en Fahrenheit, et ça aurait fait à peu près 3 Fahrenheit. Maintenant, les pauvres Américains doivent convertir nos 2 degrés en Fahrenheit, et ce n'est pas un chiffre rond, donc ils ont un problème. Avec 2 degrés, si on parcourt les différents aspects de notre vie sur Terre, la biodiversité, les pluies, les ouragans, etc., les migrations sociales, on pense que, c'est-à-dire les climatologues réunis, pour les appeler comme ça, pensent que si on limitait le réchauffement à 2 degrés et qu'on ne le laisserait pas filer à plus 5 degrés, on pourrait vivre une vie de société normale dans une situation où les désavantages ne l'emporteraient pas trop sur les avantages. C'est à peu près comme ça qu'on peut s'exprimer. Mais personne n'est exactement conscient de ce que les 2 degrés vont apporter. On peut penser que pour l'agriculture, elle sera, disons, plus exposée à des chaleurs, donc il faudra plus d'irrigation, mais on n'est pas tout à fait sûr. Donc il y a une grande incertitude qui plane sur tout cela, et alors, politiquement, on essaie de faire les mesures qu'on appelle « no regret » ou « low regret ». « No regret », c'est-à-dire ce sont de bonnes mesures qui sont bonnes de toute façon, même si le changement climatique ne se faisait pas ressentir aussi cruellement qu'on pourrait le compter, ou « low regret », où ces mesures ne sont pas aussi chères pour l'économie nationale et que ce serait quand même bénéfique. Ça, c'est à peu près le problème. Alors, pour arriver maintenant aux 2 degrés, c'est non pas pour arriver, mais pour limiter le réchauffement à 2 degrés, ça c'est tout justement l'enjeu des Copenhague, des Cancun et bien sûr avant encore du Kyoto. Ça c'est comment les nations vont pouvoir alors se concerter pour limiter chacun les émissions. Alors, la première chose.
Là, je dirais, on va passer la parole.
Parce qu'on s'approche du politique, là.
Oui, voilà. Oui,
exactement.
Je suis sûr qu'après, vous allez revenir aussi sur la politique, mais peut-être, juste pour faire une petite parenthèse, peut-être quelqu'un a une question, M. Lamech, sur ces disons, ces informations de base, juste pour être sûr que il n'y a pas un élément à contredire. Claude, non? Tu vois la vie autant en rose, oui. Ok, très bien. Alors,